C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 6 février et on s'intéresse aujourd'hui à l'ornithologie. Alors c'est un sujet très large, très riche, on ne pourra pas tout aborder bien sûr, mais on abordera l'essentiel, l'environnement et l'habitat des oiseaux, leur situation dans notre région, mais aussi les mesures de protection qui sont prises et leur avenir face au bouleversement climatique. Et pour nous éclairer, nous serons ce midi en compagnie de James Jean-Baptiste, ornithologue et animateur salarié au sein du groupe ornithologique normand. Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. 878 heures et 12 jours, voilà le temps qu'a passé Oleg Kononenko dans l'espace. Un record mondial tout simplement, jamais un humain n'avait séjourné aussi longtemps en orbite. Thomas Pesquet lui est loin derrière avec seulement 396 jours. Oleg Kononenko explique à une agence de presse russe « Je vais dans l'espace pour faire ce que je préfère, pas pour établir des records ». Il se dit aussi ravi d'avoir porté les couleurs de la Russie pour réaliser cet exploit. Au total, 2 ans et demi passés à bord de l'ISS qui lui ont permis de réaliser 5 voyages spatiaux, soit un peu plus d'une demi-heure en cumulé, mais ce n'est pas tout, il devrait battre un nouveau record en juin prochain en franchissant la barre des 1000 jours passés dans l'espace avant un retour sur Terre en septembre. Bonne nouvelle, un nouveau traitement pour lutter contre la maladie de Charcot a porté ses fruits grâce à des chercheurs américains qui ont mis au jour une étude mardi dernier publiée dans la revue PLOS Biology, une nouvelle qui donne le sourire puisque jusque-là aucun traitement n'avait été concluant, mais ça y est, après 12 années de recherche, une solution pourrait se dessiner. Elle a notamment fait ses preuves sur des rats, des souris et des chiens en agissant comme un stabilisateur moléculaire. En clair, avec ce traitement, les chercheurs veulent stabiliser une protéine qui protège les cellules d'éléments toxiques et qui est donc fondamentale pour empêcher le développement de la maladie de Charcot. Pour rappel, elle provoque une paralysie progressive des muscles et plonge le malade dans un état d'enfermement qui le conduit à la mort en quelques années. La maladie de Charcot qui progresse ces dernières années, notamment en France, comme l'a montré une récente enquête de Santé publique France après de nombreuses alertes de clusters. Et ces chercheurs n'ont pas été les seuls à avoir publié une étude mardi dernier. L'INSERM a de son côté sorti la sienne et prouvé que l'exposition à la lumière du jour permet de diminuer les troubles du sommeil liés à l'âge. Comment ? Parce que notre cristallin n'est pas le même à 20 ans qu'à 70 ans, lui qui permet la sécrétion de la mélatonine, l'hormone qui favorise l'endormissement, et donc on peine davantage à s'endormir quand on vieillit, d'où l'intérêt de la luminothérapie. Selon les chiffres de la Haute Autorité de Santé, un tiers des plus de 65 ans consomment régulièrement des somnifères alors que la solution se trouve à l'extérieur. Rester chez soi, ce n'est donc pas la solution, puisque la lumière artificielle est 10 fois moins forte que celle du soleil. Et on termine avec une disparition, celle de Jean Mallory, explorateur et anthropologue. Il a notamment été le premier à rejoindre le pôle Nord à pied. C'était le 29 mai 1951, avec un guide qui est devenu son compagnon de route. L'explorateur racontait à son sujet « C'est grâce à lui que j'ai appris petit à petit à écouter les réponses des roches de la végétation en appuyant mes réflexions de géomorphologue naturaliste sur les relations qu'entretiennent les Inuits avec leur territoire. » Quelques années plus tôt, il découvrait donc les cultures inuit qu'il n'a cessé de défendre, lui qui s'est fait le porte-voix des minorités ethniques pendant des années. Jean Mallory s'est éteint hier à l'âge de 101 ans.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
L'ornithologie est un vaste sujet et couvre aussi bien l'observation, la protection et le suivi des oiseaux et des rapaces. Pour comprendre leur mode de vie, faire tomber certains clichés et s'interroger sur leur avenir, on en parle ce midi avec James Jean-Baptiste. Bonjour James Jean-Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes animateur et salarié au sein du groupe ornithologique normand. Si on fait un premier tour d'horizon, quelles espèces sont présentes dans la région cannaise pour commencer ?
Alors on a toutes sortes d'oiseaux dans la région cannaise. On est sur des espèces qui vont utiliser des secteurs de plaine, des secteurs de milieux prairiaux, des secteurs bien entendu de la ville et puis celles des zones humides.
Alors combien d'espèces on comptabilise globalement dans le Calvados ? Est-ce que c'est un chiffre qui évolue, qu'on arrive à chiffrer régulièrement ?
Alors là, on a une base de données qui nous permet de comptabiliser les oiseaux et les observateurs la renseignent tous les jours. Donc en Normandie, on a 400 espèces d'oiseaux recensées depuis 1971 en gros. Et dans le Calvados, c'est une région qui est bien lotie puisqu'on tourne autour des 350 espèces recensées dans ce département.
Et le Calvados, par rapport à d'autres voisins normands en termes de département, est-ce qu'il est, c'est un bon élève par rapport à la Manche, par exemple, comment est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est comparable, la situation des deux départements, déjà?
Non, parce que la Manche ne va pas avoir les mêmes milieux, ne va pas avoir de grands secteurs de plaine. Elle a un littoral qui est beaucoup plus fort que celui du Calvados. La Manche a un riche estuaire avec la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, on est un petit peu en dessous du département de la Manche, mais ça ne joue à pas grand-chose.
Et quand on parle d'ornithologie, on pense souvent aux oiseaux, mais est-ce que ça inclut aussi les rapaces? C'est ça, ça inclut bien les rapaces quand on parle d'études d'ornithologie, c'est ça?
Oui, c'est tout ce qui... Un oiseau, la définition, c'est un animal qui a des plumes. Donc dès lors qu'on a une espèce avec des plumes, c'est un oiseau, donc ça fait partie de l'ornithologie.
Et en termes de proportion, les rapaces constituent à peu près combien de quelle part on a dans...
Alors sur les rapaces, on est... La Normandie n'est pas du tout bien lotie, par contre, on n'est pas un secteur de grosse chaleur, donc il va nous manquer des grands rapaces qui vont utiliser des thermiques pour voler. Donc on n'est pas terrible en Normandie, on va compter sur une vingtaine d'espèces d'oiseaux, de rapaces.
Et quelles sont les grandes zones normandes intéressantes pour l'observation des oiseaux en général?
Alors en Normandie, on va avoir la baie du Mont-Saint-Michel, on va avoir la baie d'Évée au-dessus de 40 ans, l'estuaire de l'Orne qui est un hotspot, et puis l'estuaire de Seine. Alors c'est bien entendu que des zones humides, mais c'est logique puisque la zone humide va regrouper tout un tas d'espèces qui viennent se nourrir et boire si elles ont besoin. Mais l'eau, c'est la vie, donc automatiquement les estuaires, ça regroupe du monde.
Là, on parle des estuaires, il y a aussi les forêts qui sont un lieu de vie des oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a comme forêt dans le Calvados vraiment importante en termes d'oiseaux?
Alors, pareil, on n'est pas bien loti puisque les moines ont déforesté à fond la Normandie, notamment le Calvados. Donc, on est une des régions de France les moins boisées, ce qui fait qu'on se retrouve avec des petits boisements qui n'ont pas un réel intérêt ornithologique puisque on a perdu toutes nos espèces qui pouvaient vivre dans ces bois au cours du temps.
Et il y a des oiseaux qui sont plus ou moins rares sur notre territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on va qualifier un oiseau de rare? Quels critères on va mettre en avant?
Alors ça va être sa fréquence d'observation. Est-ce qu'on le voit chaque année? Est-ce qu'on le voit une fois tous les 5 ans? Est-ce qu'il est là plusieurs fois dans l'année ou qu'une seule fois? Donc la rareté, ça va être lors d'une balade. Est-ce qu'un ornithologue a tant de pourcents de chance de rencontrer cette espèce-là? Donc on a des oiseaux migrateurs qui ne viennent qu'à une période de l'année. Puis on peut avoir des oiseaux rares qui avant nichaient en Normandie, mais à cause de la modification des biotopes, commencent à disparaître et ça devient un oiseau rare en tant que nicheur alors qu'il y a 20 ans, il était commun.
Alors justement, en termes d'oiseaux migrateurs, est-ce qu'ils constituent une grande part du total des espèces d'oiseaux en Normandie? On est sur quel pourcentage à peu près?
Alors là, je n'ai pas en tête le pourcentage, mais toutes les espèces migrent. Il faut se retirer de la tête qu'il y a de la sédentarité. C'est tous les oiseaux migrent. Le rouge-gorge qu'on a dans son jardin, bah, ce n'est pas celui-là qui va être au printemps. Celui qu'on a en hiver n'est pas le même qu'au printemps. Donc en gros, toutes les espèces qu'on a en Normandie, les 400 espèces, sont susceptibles de migrer à un moment donné. Donc la proportion, elle est 200% dans l'absolu.
C'est quoi le périmètre de migration d'un rouge-gorge pour qu'on se rende bien compte, à peu près en fonction des saisons, des migrations tout simplement?
Alors on sait avec le retour des oiseaux baguets, on sait que par exemple les rouges-gorges qu'on a en hiver en Normandie viennent d'Angleterre et de Hollande. Donc c'est une petite migration qui ne fait que quelques centaines de kilomètres, mais c'est quand même de la migration. Ces oiseaux ne restent absolument pas dans leur pays pour passer l'hiver.
C'est ça, donc on est bien sûr vraiment ailleurs de l'idée reçue que les oiseaux migrateurs ont un seul et même trajet du nord vers le sud, du chaud vers le froid. Il y a une multitude de trajets, c'est bien ça.
Oui, on a en plus la migration nord-sud n'existe pas du tout en Normandie. On a une migration qui nous vient de l'est, du nord-est et qui va vers le sud-ouest. Donc on a un plan incliné pour les migrateurs de Normandie, mais on a aussi de la migration juste nord-sud, ceux qui vont traverser la Manche, qui vont partir de Grande-Bretagne et arriver sur les côtes du Calvados. Et puis on a des petits migrateurs qui vont partir à 5-6 km de votre habitation. Par exemple, les moineaux domestiques. Si vous regardez bien, il n'y a pas de moineaux domestiques autour de chez vous au mois d'août. Ils sont partis changer leurs plumes un petit peu plus loin, là où il y a beaucoup de nourriture.
Et pour en revenir au fonctionnement de cette association qui est le groupe ornithologique normand, combien il compte d'adhérents et comment il fonctionne?
Alors, on a plus de 1000 adhérents et on fonctionne avec les études que l'on va mener, qui nous sont commandées par différentes personnes. Ça peut être l'État, ça peut être des privés. Par exemple, s'il y a un projet d'éolien, on va faire une étude sur au moins un an qui va nous permettre de voir l'impact des machines sur les oiseaux. Donc ça, on se fait rémunérer pour ça. On va avoir des études commandées spécifiquement parce qu'on a besoin d'informations, du moins l'État a besoin d'informations sur le statut d'une espèce ou d'un secteur pour savoir est-ce que, par exemple, gravelot à collier interrompu est une espèce qui se porte bien ou pas bien. Et donc, on va mener des études pour en savoir plus sur cet oiseau et comment faire pour l'aider s'il y a besoin.
Et concernant les adhérents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment est-ce qu'ils peuvent agir au sein de l'association? Et quel est l'intérêt d'adhérer au groupe ornithologique normand?
Alors l'intérêt, on a un premier intérêt, c'est de soutenir une association loi 1901 à but non lucratif. Donc en poids politique, c'est important d'être le plus nombreux possible au sein d'une association. Donc les personnes ne sont pas obligatoirement des ornithologues qui vont adhérer. Ça peut être des sympathisants qui se disent bah, « j'ai 30 euros, je peux le donner à une association qui va permettre de porter ma voix au plus haut sommet ». Et puis après, quand on est adhérent, si on veut être actif, il n'y a pas de problème. La base, ce serait juste de communiquer ses observations. C'est de noter dans une application les oiseaux qu'on observe autour de chez soi. Et ça reste à vie, c'est-à-dire que dans un siècle, quand on va consulter la base, on saura que, par exemple, le moineau était commun à Caen et que dans 100 ans, ce n'est peut-être pas le cas. Donc ça, c'est une base le plus simple de participer à la vie de l'association.
Donc chacun peut, bien évidemment, apporter sa pierre à l'édifice par simplement une espèce de pointage d'espèces. En mettant à jour, c'est ça, hein, les espèces qui sont présentes sur un territoire donné.
Voilà, c'est du recensement de base. On voit quelque chose. En fait, ce qu'on voit, personne d'autre ne l'a vu. Donc, il faut noter. Si vous ne l'envoyez pas, bah, la donnée est perdue et on ne saura pas ce qui se passe.
Et est-ce qu'un adhérent lambda peut faire davantage d'actions? Peut-être s'il est plus spécialisé en ornithologie, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus?
Alors, nous, au sein du GON, on lance des actions quasiment tous les mois. Il y a quelque chose à faire. Donc, on lance un appel auprès de nos bénévoles pour qu'ils participent. Donc là, personne n'a dû louper le grand comptage des oiseaux des jardins qui a eu lieu à la fin du mois de janvier. En février, on fait le recensement des oiseaux échoués. Donc, on parcourt toutes les plages de Normandie à la recherche de cadavres d'oiseaux pour voir de quelle espèce il s'agit et d'essayer de savoir en quoi il est mort? Est-ce que c'est dû à la pollution? Est-ce que c'est dû à la chasse? Est-ce que c'est dû à une maladie? Et donc ça, on le fait depuis 1972. Donc c'est une enquête à long cours et c'est très important pour voir l'évolution des causes de mortalité de ces oiseaux.
Et en quoi le rôle du groupe ornithologique normand, il diffère de celui, par exemple, de la Ligue de protection des oiseaux? Est-ce que c'est les mêmes actions? C'est le même genre d'association?
Alors oui, la base, c'est de l'étude et de la sensibilisation à l'ornithologie. Alors le GON en Normandie existe depuis 1971, la LPO est beaucoup plus récente, mais dans l'absolu, le travail, c'est l'étude et la protection des oiseaux sauvages.
Et comment est-ce que vous gérez les réserves ornithologiques? Est-ce que vous pouvez gérer toutes les réserves de la région? Est-ce que certaines vous sont directement attitrées ou est-ce que vous êtes, je sais pas, plusieurs à vous les partager par exemple?
Alors, c'est compliqué puisqu'on nous, on a notre propre réseau de réserves ornithologiques. Et là, c'est des conventions qui peuvent être avec des privés. Quelqu'un a un grand espace et décide d'en faire une réserve ornithologique. On a, nous, une politique d'achat de terrain qui consiste à acheter des terres et à pratiquer une agriculture compatible avec les exigences des oiseaux, à savoir qu'on ne va pas faucher au mois de mai à la période où les oiseaux nichent. On va demander aux agriculteurs qui travaillent pour nous de faucher au mois d'août. Donc, c'est divers et varié en fonction du milieu. Dans une forêt, ben, on a besoin de moins de gestion. Dans une prairie humide, ben, il faut couper presque chaque année l'herbe pour que repartir sur un milieu pionnier. Sur une falaise, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ça va vraiment dépendre du milieu et on va adapter la gestion au biotope.
Ça veut dire qu'un particulier, s'il a une surface de terrain suffisamment importante et qu'il considère qu'il y a une faune suffisamment importante, il peut se déclarer comme réserve ornithologique?
Oui, en fait, il se rapproche de nous et nous on a deux formules, soit un refuge, c'est-à-dire que la personne est chez elle et puis est sensibilisée aux oiseaux, on lui passe un panneau qu'elle peut mettre devant chez elle en indiquant que c'est un refuge pour oiseaux. Là, c'est très simple, c'est une petite convention à signer. Par contre, lorsque c'est une réserve, le propriétaire, là, s'engage à faire des choses pour les oiseaux et à faire une convention avec nous et on va orienter la gestion pour les oiseaux.
C'est ça, il y a vraiment une différence d'engagement entre réserve et refuge. C'est pas uniquement une question de, comment dire, de, une question matérielle ou de superficie, il y a vraiment une différence d'engagement de la part du propriétaire.
Ça, oui, oui, un refuge, la personne est chez elle et puis a fait un acte sympathisant en, en montrant qu'il y a un refuge chez elle, alors qu'une réserve, ben, on va améliorer l'accueil des oiseaux par de la gestion qui peut être ne pas couper les arbres ou couper les arbres parce que les essences ne sont pas bonnes et renouveler les essences, etc.
Donc c'est vous qui décidez aussi du statut du refuge, qui jugez aussi en fonction de l'environnement ce qui peut être adapté au refuge ou pas, c'est ça?
Oui, totalement. Ouais. Ça va dépendre du milieu, de la taille. Et puis nous, si on peut s'investir aussi dans le terrain que la personne va nous confier.
Alors, James Jean-Baptiste, vous nous avez dit en off que vous étiez certes animateur et salarié au sein du groupe, mais vous étiez aussi, vous meniez aussi des études. Elles sont de quelle nature ces études exactement? Est-ce que c'est les mêmes? On se doute que non, mais est-ce que ça peut se rapprocher de celles des bénévoles ou ça va être des études par exemple plus poussées?
Quand on est salarié d'une association, c'est qu'on accomplit des tâches que les bénévoles ne pourraient pas faire parce que ça nécessite du suivi presque quotidien. Donc bien entendu, un bénévole a sa journée de travail, il n'a pas forcément le temps de faire soit des points d'écoute le matin très tôt, soit de rechercher des rapaces nocturnes le soir ou en journée faire d'autres choses. Donc on va faire des missions qui sont sur du long terme et qu'un bénévole, bien évidemment, ne peut pas faire s'il n'est pas à la retraite, par exemple, ou s'il a un travail qui est trop prenant, c'est pas possible pour lui d'assurer certaines missions.
Comment est-ce qu'on peut faire de l'observation ornithologique concrètement? On a reçu il y a deux semaines sur notre antenne l'ARCEN, qui est l'association cannaise d'étudiants naturalistes, qui nous ont donné plusieurs conseils. On aimerait bien ce midi avoir les vôtres. Pour les oiseaux et les rapaces en particulier, comment est-ce qu'il faut s'y prendre?
Alors, il faut être équipé déjà d'une paire de jumelles à minima, et puis après se promener dans la nature et puis avoir conscience que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on voit, personne d'autre le voit, donc il faut noter. Si on note ces observations, au bout d'un moment, on va s'améliorer constamment et on va voir, commencer à avoir une idée de la rareté de l'espèce. Est-ce que ça vaut le coup que je note le rouge-gorge tous les jours? À un moment donné, je vais me dire, bah non, il est tout là tous les jours, donc je ne vais pas forcément le noter. D'aller en plaine et de voir des rapaces et de dire, tiens, il y a un busard là, est-ce qu'il va pas nicher? Est-ce que je ne vais pas chercher le nid pour éviter qu'il soit moissonné par un agriculteur lors de la moisson? Donc tout ça, il y a plusieurs programmes qui existent. Et en fait, au début, on va un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop où aller. Et puis au bout d'un moment, notre intellect fait qu'on va hiérarchiser des priorités en disant bah, « moi, je suis plus intéressé par ce groupe d'espèces, donc je vais plutôt observer les canards, compter les canards sur la prairie de Caen, par exemple, ou plutôt étudier les passereaux par les champs. » Donc, il faut être juste un petit peu curieux, avoir sa paire de jumelles, un guide d'identification quand on débute. Il nous faut vraiment ce guide pour reconnaître l'oiseau si on ne le sait pas, et puis à participer aux sorties. On apprend à découvrir avec des autres personnes.
C'est ça, donc pour bien pour observer correctement, il faut comprendre vraiment l'écosystème. Il ne faut pas juste observer, enfin, je suppose que ça se fait naturellement, mais il y a vraiment l'idée de s'impliquer dans l'écosystème et de comprendre le fonctionnement de chaque espèce à chaque endroit. On continue de parler ornithologie avec vous, James Jean-Baptiste, du groupe ornithologique normand, juste après Adios de Stuck in the Ground. À tout de suite dans C'est pas faux.
Let's stop.
c'était Stuck in the Ground. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux sur Radio Phoenix. Et nous sommes ce midi avec James Jean-Baptiste, animateur et meneur d'études, si on peut dire ça comme ça, au sein du groupe ornithologique normand, pour nous parler des oiseaux et des rapaces, en particulier de leur situation dans notre région, comment les observer, comment vivent-ils et comment les protéger. Ce sont bien sûr des espèces qui sont fragiles. Quels dispositifs sont actuellement en place pour protéger les espèces que vous suivez ?
Donc déjà, la première protection, c'est la connaissance des espèces. Il faut bien les connaître pour bien les protéger. Et donc, on a soit plusieurs systèmes, c'est-à-dire qu'il y a la réglementation. Des oiseaux sont désormais, pour beaucoup d'espèces, interdits de chasse, interdits de prélèvement, interdits de collection. Il faut savoir qu'avant les années 80, on pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait avec les oiseaux. Si on voulait une cigogne empaillée, on tirait dessus, on la ramenait, on l'empaillait, il n'y avait pas de problème. Donc maintenant, tout ça, c'est bien classé. Donc la première chose, ça a été d'étudier, de voir quelles espèces étaient menacées et de les protéger par la loi. Ensuite, il faut protéger leur biotope. Et donc, c'est de là qu'on a développé le réseau de réserve, puisqu'en protégeant leur milieu, on va protéger l'espèce. Mais bien entendu, un oiseau va manger des insectes, des batraciens et autre chose. Et ces batraciens vont manger des insectes et ces insectes vont manger des plantes. Donc il faut protéger toute la chaîne alimentaire si on veut être cohérent pour faire une protection uniquement des oiseaux.
Alors parmi ce dispositif de protection et de suivi des oiseaux, il y a le bagage notamment de certains oiseaux. Quels oiseaux vont être soumis au bagage et comment ça se passe exactement ?
Alors le bagage, c'est une pratique qui est autorisée sous condition d'avoir passé son permis avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui délivre une autorisation de capture d'espèces protégées. Comme je vous disais, quasiment toutes les espèces sont protégées. Donc une fois qu'on a cette autorisation, on va capturer des oiseaux à l'aide de filets japonais qu'on va tendre entre deux perches. Et les oiseaux vont, en volant, taper dans le filet et glisser dans une poche. Hein. Ils ne sont pas prisonniers brutalement, ils glissent en fait dans une poche. Après, on va les cueillir et on va les mettre dans des poches. On va poser une bague métallique et sur cette bague, il y a la carte d'identité de l'oiseau qui sera à vie. Il aura un code unique qu'on va renseigner, renvoyer au muséum. Et si cet oiseau est retrouvé n'importe où sur la planète, on pourra savoir où il a été bagué, quel âge il avait quand il a été bagué, combien de kilomètres il a parcouru, etc. Donc le bagage, c'est très particulier et c'est fait sur... on peut faire ça sur toutes les espèces, mais il y a un programme de recherche derrière souvent, donc c'est ciblé sur certains oiseaux.
Et est-ce qu'il y a des phénomènes climatiques, par exemple, qui menacent en premier lieu certaines espèces ? Et est-ce que vous le constatez quotidiennement dans notre région ?
Alors, l'avantage de la Normandie, c'est qu'on est un peu au nord et que pour l'instant, le réchauffement climatique, il nous a pas touché de plein fouet. Il y a Le Monde qui a sorti une cartographie en fait des changements de climat ces dernières années. Et on peut voir que la Normandie en fait est pas trop touchée. Il y a que le littoral de la Manche qui a changé de climat. Le reste de la Normandie a pas bougé et on le voit puisqu'on n'a pas reçu la grande claque du réchauffement climatique comme le sud de la France où il y a des espèces qui ont déserté, c'était des espèces du froid. Et les espèces du froid, bah, quand il fait chaud, elles n'aiment pas ça. On a des oiseaux qui ne supportent que le froid. Les aires de répartition sont faites comme ça. Donc par exemple, nous en Normandie, on a le bouvreuil pivoine, le pouillot-phytis, qui sont deux espèces qui sont plutôt nordiques. Et chez nous, on ne constate pas une baisse énorme. Alors ça baisse, mais ce n'est pas autant que le sud de la Loire, où ça, ces oiseaux sont devenus assez rares maintenant. Donc pour l'instant, on est plutôt bien loti au niveau du réchauffement climatique. Mais oui, on a vu des changements par contre inverses, des espèces méditerranéennes qui sont venues s'installer en Normandie, comme les grèdes garzettes, le héron garde-bœuf, qui maintenant sont des espèces communes, alors qu'il y a 20 ans, personne n'aurait parié de les voir aussi facilement.
C'est ça ce que j'allais vous dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de transformation profonde de l'écosystème, mais il y a quand même l'apparition de nouvelles espèces qui étaient présentes pas forcément hors de la France, mais qui étaient au sud de la France et qui sont remontées. Est-ce qu'elles c'est des espèces qui sont migratrices ou elles y sont installées définitivement ?
Alors, elles sont installées définitivement, c'est-à-dire que les grèdes garzettes, qui étaient un oiseau rare dans les années 80, est passé comme un oiseau migrateur qui s'arrêtait de temps en temps et puis est devenu maintenant un nicheur. Il s'est installé, on l'a toute l'année. on peut voir de l'aigrette garzette toute l'année. L'hirondelle rustique est en train de faire un petit peu le même trajet, atteste. Si les hivers continuent à être aussi doux, on va avoir de plus en plus d'hirondelles à rester en hiver sur la Normandie. On en a eu là tout l'hiver dans les marais de 40 ans. Donc voilà, c'est des stratégies. Il faut savoir que l'évolution des espèces, quand il y a le mot évolution, ça veut dire qu'on va bouger. Si jamais elles étaient restées sédentaires, il y aurait eu la fin de beaucoup d'espèces. Ce n'est pas le cas. Elles tentent des stratégies qui souvent ne marchent pas parce qu'elles rencontrent des difficultés climatiques. Là, il s'avère que pour certaines espèces qui ont tenté de rester l'hiver sur des zones qui n'étaient pas forcément agréables, ça a matché et ces espèces vont s'implanter durablement puisqu'on a un réchauffement climatique.
Et vous parliez d'évolution pour ces espèces. Est-ce qu'il y aura aussi une évolution pour les dispositifs de protection, par exemple, que vous mettez en place pour les oiseaux? Est-ce qu'on peut imaginer que vous allez être amené à innover, à vous adapter aussi à ces changements, à ces nouvelles arrivées d'espèces?
Alors ça, c'est très compliqué parce que c'est les biotopes qui évoluent moins vite. Hein. Donc, on risque d'avoir des catastrophes dans le sens où on va perdre des végétaux qui sont importants, comme le hêtre. Le hêtre, c'est une essence qui est très représentée en Normandie, qui aime bien le froid. Dès lors où la température va monter, le hêtre ne va pas pouvoir survivre. Et donc, ces êtres qu'on a de 80-100 ans vont mourir. Et il n'y aura pas de remplacement pendant la période suivante, et peut-être même plus longtemps, le temps qu'une essence arrive à s'implanter directement. Donc c'est un peu compliqué, cette histoire de réchauffement, surtout pour la végétation, parce qu'il va falloir qu'elle s'habitue, qu'elle trouve quelle essence va pouvoir perdurer, et puis les oiseaux vont voir ce qui se passe, et puis les espèces qui sont intéressées vont s'installer, celles qui ne sont pas intéressées vont juste passer, et puis attendront le bon moment pour s'installer.
Alors, on le sait, les espèces d'oiseaux diffèrent selon les milieux et les types de paysages. Il y a par exemple les oiseaux de marais qui sont spécifiques vraiment à ce genre d'environnement. Quel est par exemple le rôle du bocage dans la vie des oiseaux? On sait que c'est très important, le rôle des haies, du cloisonnement des champs. Qu'est-ce qui permet et pourquoi est-ce que c'est important?
Alors, c'est important parce qu'on a une semi-forêt, c'est pas complètement une forêt, donc on va pas avoir les espèces strictement forestières et on va pas avoir les espèces strictement d'open field, donc des grands champs. Donc on a un milieu de transition qu'on va appeler écotone. Donc c'est des milieux de lisière et c'est dans ces lisières qu'on a la plus grosse production de biomasse. Donc c'est écologie, c'est très simple. Quand vous avez un chemin, le maximum de diversité est sur le bord du chemin, va pas être au milieu du chemin et pas être dans la parcelle qui est à côté du chemin, mais vraiment au bord puisqu'on a deux milieux qui se rencontrent. Donc le bocage, c'est ça. On a un milieu forestier linéaire et un milieu qui est entre le bocage qui va être de la culture, des pâtures. Et donc, on va avoir les espèces de ces deux milieux qui vont se rencontrer dans la haie. Grosse production de biomasse, d'insectes, température assez stable, abritée du vent. Ce qui fait qu'on va avoir des animaux qui vont vivre plutôt en toute tranquillité dans ce biotope et trouver de la nourriture assez facilement.
Et lors d'une destruction d'un biotope, d'un espace ou d'un paysage, comment est-ce que la faune et les oiseaux s'adaptent? Comment est-ce que ça se passe exactement?
Alors, il faut savoir que les oiseaux, malgré leur pouvoir de migrer, et ils peuvent faire des milliers de kilomètres, ils vont revenir l'année suivante là où ils ont niché pour la première fois. Donc l'hirondelle qui niche chez vous, c'est pas parce qu'elle part en Afrique du Sud qu'elle va rester là-bas ou se dire tiens, l'année prochaine, je vais aller nicher à Marseille. Non, elle reviendra dans votre cellier nicher. Donc dès lors que vous faites aménagement dans votre garage, vous interdisez l'accès à cette hirondelle, elle n'ira pas nicher ailleurs. Donc ce couple est perdu puisque si elle tente de s'installer chez les voisins, il y a le couple d'hirondelle des voisins qui va dire non, ici c'est chez nous, je veux pas te voir ici. Et donc elle va errer. Et le fait que les habitats sont assez rares et les exigences sont fortes pour les oiseaux, elles ne vont pas trouver de bons biotopes et donc elles ne vont plus nicher. Et petit à petit, la population baisse. Donc dès lors qu'on a une destruction de biotopes, on perd les animaux qui vivaient, notamment les oiseaux, qui vivaient dans ce biotope-là. C'est définitif pour les espèces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres à venir, mais pour celles qui y étaient, c'est mort, terminé, elles ne nicheront plus.
Et est-ce que l'activité humaine quotidienne, elle perturbe encore la vie et le développement des oiseaux? Ou est-ce qu'ils se sont habitués? Je pense notamment à la ligne de chemin de fer, par exemple, qui traverse le parc des marais du Cotentin. Est-ce que c'est un élément supplémentaire auquel ces espèces-là se sont habituées? Ou, pareil, ça s'apparente à une destruction d'habitat?
Alors, Il est sûr que la ligne, quand elle a été créée, ça a fait une destruction d'habitat. On a dû mettre des remblais, etc. Mais l'avantage avec les oiseaux, c'est qu'ils s'habituent assez rapidement au changement et sont capables d'anticiper certaines choses et de s'adapter. Il y a des oiseaux qui vont nicher près des lignes de voies ferrées. Et donc, ça ne va pas les gêner. Le bruit ne va pas les gêner. Elles ont compris qu'il y a des trains qui peuvent passer, qu'il ne faut pas trop s'approcher. Mais c'est sûr que les premiers temps de ce renouvellement, il y a une casse qui est très importante. Et il faut essayer de la limiter et de comprendre comment on peut la limiter. Par exemple, si on crée une autoroute, on va éviter de surélever l'autoroute par rapport aux abords parce que les chouettes effraies qui vont venir chasser vont devoir monter pour passer l'autoroute et ils vont se faire happer par les camions qui vont passer. Ils vont happer la chouette qui va se faire écraser par la voiture de derrière. Donc, il y a des aménagements qui sont possibles quand on modifie un milieu. Quand on prend en compte l'environnement dans les projets, on arrive toujours à trouver des solutions. L'être humain est intelligent. Il faut juste qu'il veuille bien être intelligent. C'est juste le problème. Souvent, on fait un projet qui est économique et on s'en fout de l'écologie, on s'en fout du social. Ou on fait un projet social et on s'en fout de l'écologie. Alors que le développement durable voudrait qu'on travaille sur les trois pôles en même temps, l'écologie, le social et l'écologie et l'économie. Et donc, on arriverait à trouver des solutions équitables, intelligentes et durables. Ce qui n'est pas encore le cas, c'est qu'on parle beaucoup de développement durable, mais souvent, on fait plus d'économie qu'autre chose dans ces projets-là.
Et concernant la protection des espèces sauvages, est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut faire à notre échelle? Par exemple, je pense à des mauvaises habitudes à perdre, par exemple, qu'on a pu avoir par le passé et qui ont inconsciemment, sans qu'on le sache, provoqué la perte ou la dégradation de l'habitat chez ces espèces-là.
Alors, on peut penser déjà à notre jardin, puisque c'est la chose qui nous touche le plus. Donc, c'est d'aménager notre jardin correctement, ne pas aller acheter des plantes exotiques pour faire une haie de thuya ou de laurier palme. Et il faut prendre des essences locales. Il suffit juste d'aller se balader dans la nature, de prendre une branche de sureau, de la planter. Ça va repousser, c'est gratuit. Ça offre des baies aux oiseaux, ça offre des fleurs aux insectes au printemps et des sites pour nicher. Donc, il n'y a rien de plus simple. On mélange avec du noisetier, avec d'autres essences. C'est gratuit et avec là on fait un vrai refuge pour les oiseaux pour 0 €. Et après, le souci, c'est qu'on fait de plus en plus de lotissements, on construit des maisons un petit peu partout. Et donc, il faut raisonner. Alors, pourquoi pas, il faut bien loger les gens, mais on peut aussi raisonner à l'accueil de la faune dans notre maison. Quand on va construire une maison, on peut penser à installer un nichoir directement dans le mur. C'est facile de demander au maçon d'intégrer un nichoir dans un parpaing. C'est pas compliqué, c'est un trou tout petit de 28 mm ou de 32 si on veut de la mésange bleue ou charbonnière. Et si on faisait ça et on réfléchissait ça aussi dans tout aménagement, on pourrait faire de belles choses et durables.
Et pour en revenir à la question de la population de ces espèces-là, est-ce qu'on a en Normandie des espèces qui sont en voie d'extinction véritablement? Ou alors c'est des espèces qui vont migrer ailleurs, qu'on n'a plus sur notre territoire, mais qui ne sont pas pour autant éteintes?
Non, on a vraiment des espèces qui sont en train de disparaître. On a le râle des genêts, qui est un oiseau qu'on appelait le roi des cailles, qui était très commun au 19e siècle, hein, qui a périclité au 20e et qui est en phase de disparition. Il doit nous rester allez, moins de 5 chanteurs dans l'estuaire de la Seine. Il a complètement disparu ailleurs. Donc là, c'est peine perdue. Il n'y a plus rien à faire. L'oiseau a des problèmes sur ses sites d'hivernage en Afrique. Hein, donc là, c'est difficile de le gérer. Il y a le butor étoilé, qui est un oiseau des grandes roselières et qui se porte très mal. Il nous reste, moins de 5 chanteurs aussi en Normandie. Donc, ça tient à pas grand-chose pour qu'ils disparaissent. Et ils vont disparaître à coup sûr parce que leurs exigences sont tellement grandes qu'on ne peut pas intervenir sur un biotope aussi grand, aussi compliqué qu'une zone humide, qu'une roselière, etc.
C'est dû à quoi, en général, la disparition de ces espèces? Est-ce qu'on peut généraliser les causes de cette disparition?
Alors souvent, c'est le morcellement de son habitat. C'est qu'on a tellement détruit, alors qu'il reste, on va retrouver des roselières, sauf qu'elles sont tellement disséminées qu'elles n'ont plus de lien entre elles qu'il est difficile pour l'espèce de s'y installer. Il faut qu'elle fasse des bonds de 100 km pour pouvoir s'installer. Donc ça devient compliqué, ça devient plus intéressant pour l'oiseau. Donc petit à petit, il va quitter ces zones-là et puis plutôt se concentrer sur des régions ou d'autres pays notamment où il y a encore ce biotope qui est très présent. Mais la population baisse en règle générale.
Et à l'inverse, est-ce qu'on a des espèces qu'on pensait éteintes et qui finalement, par le geste de l'homme, par des actions qui sont en faveur de leur habitat, est-ce qu'on a des espèces qui sont réapparues comme ça ou c'est un peu trop utopiste ?
Alors, il pourrait, mais c'est pas grâce à l'homme. Si un oiseau doit disparaître, il va disparaître. Et si un oiseau a la volonté d'évoluer, il évoluera bien. Par exemple, on avait le pigeon ramier, qui était un pigeon strictement forestier avant les années 80. C'est une espèce alors qui était restée commune en Normandie, mais pas autant que maintenant. Et la population a complètement explosé parce que ce pigeon ramier a compris qu'il pouvait venir en ville, nicher dans les tilleuls qu'on a au-dessus des abribus de camp, par exemple, et faire ses petits. Il fait plusieurs pondes dans l'année, si bien que la population a complètement explosé et pose des problèmes maintenant à l'agriculture puisqu'il va consommer les graines dans les champs. Mais si on fait un recul de 40 ans en arrière, c'est un oiseau dont on se posait des questions sur l'avenir parce que très chassé, parce que très localisé dans un biotope très précis. Puis il y a eu le déclic chez cet oiseau en disant « je vais tester, je vais aller en ville et puis je vais voir ce qui s'y passe » et puis ça a matché. Et pour lui, a priori, il n'y a pas de souci.
C'est ça, vous parlez des oiseaux de ville, justement, je vais rebondir dessus. On a assez peu parlé des oiseaux qui sont présents en ville. Quand on pense en ornithologie, on pense souvent très large, grands espaces, mais il y a aussi, bien sûr, des espèces qui sont citadines. Est-ce que l'observation d'oiseaux, l'ornithologie, elle passe aussi par des espèces qui sont purement urbaines ?
Oui, et puis voir l'évolution de ce qui se passe en ville, c'est intéressant. C'est, par exemple, on a le faucon pèlerin, qui est le plus majestueux des rapaces qu'on ait en Normandie, puisque c'est un oiseau qui mange que des oiseaux, un ornithophile, phage, il aime les oiseaux, il mange des oiseaux, et c'est une espèce qui va très vite, c'est l'oiseau dont on dit qu'il est le plus rapide au monde puisqu'il fait des piquets à 350 km/h. Il repère sa proie et il descend comme une bombe sur lui, il écarte l'aile et puis il va assommer sa proie et la rattraper un peu plus bas. Donc c'est un oiseau qui est arrivé en ville, alors qu'on pariait pas du tout. Hein, quand on parlait tout à l'heure des espèces qui disparaissent et est-ce qu'elles sont revenues, le faucon pèlerin, c'est totalement le cas. Il a disparu dans les années 70 suite à l'utilisation du DDT, un pesticide très puissant. Il est réapparu en l'année 2000 et maintenant on a une population qui est plus forte qu'avant. Donc ce faucon pèlerin maintenant est tellement présent sur tous les sites naturels qu'il est en train de coloniser les villes et il arrive à Caen, il est sur la mairie de Caen par exemple, les gens peuvent l'observer et donc il attend que les conditions soient bonnes pour s'installer et nicher en ville. Et ça, aucun ornithologue des années 70 aurait parié pour l'arrivée de cet oiseau en ville. Et il y a donc de très belles choses à observer en ville, puisque l'avantage en ville, c'est que les gens se foutent totalement des oiseaux. Et ce que n'aiment pas les oiseaux, c'est qu'on s'occupe d'eux. Donc en fait, quand on va observer les oiseaux, ils nous voient et ils vont avoir tendance à avoir peur parce qu'ils savent qu'on va les chercher. Bon, je ne sais pas comment, mais ils voient bien que c'est eux qu'on a envie de voir. Par contre, en ville, les gens vaquent à leur occupation. Ils ont leur petit train-train quotidien, ils roulent en voiture, ils vont attendre leur bus ou leur abribus et personne ne fait attention à la nature. Et on l'a très bien vu avec le Covid, où beaucoup de gens ont dit « Ah, mais la nature a repris ses droits, je vois plein de choses de ma fenêtre ». Non, ces animaux étaient déjà là avant le Covid, sauf que les gens ont juste ouvert les yeux. Et en ville, il y a beaucoup d'espèces à observer. Et notamment dans la ville de Caen, avec la prairie, avec l'Orne qui passe et puis les grandes allées de platanes, on va avoir des espèces qui sont très intéressantes à voir en ville.
Donc paradoxalement, ça les protégerait presque, notre indifférence à leur habitat en ville les protégerait presque plus de leur vulnérabilité qu'ils pourraient avoir en des zones où ils sont beaucoup plus observés, finalement.
Ah, exactement. À la campagne, on va être un peu plus vigilant sur les oiseaux, alors qu'en ville, si personne ne va se douter qu'on a une espèce très intéressante, qu'est le faucon pèlerin, une chouette effraie qui niche en ville, du faucon cresserelle. Donc ouais, ils ont une paix monumentale en ville et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'espèces qui arrivent en ville et qui ont tendance à s'y installer. Mais il ne faut pas qu'elles aient peur de l'homme. Si elles ont peur de l'homme, bien entendu, c'est foutu.
Pour vous parler du faucon pèlerin, qu'est-ce qui fait qu'il s'est réinstallé en ville ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que c'est juste par curiosité naturelle ? Parce qu'il était attiré par ce genre d'habitat ou
Alors, on sait qu'il est revenu parce que le DDT est parti de la chaîne alimentaire pendant 30 ans. La molécule a mis très longtemps à sortir et que l'oiseau est revenu naturellement parce que c'était un migrateur. Les couples ont repris leur bastion d'antan qui était les falaises maritimes. Donc, ils ont occupé tout le littoral sénomarin et il n'y avait plus de place. On avait un couple tous les 2 kilomètres, et à un moment donné, ces adultes continuaient à produire des jeunes, et ces jeunes ont cherché des territoires, sont arrivés dans les terres, ont niché dans les carrières d'exploitation qu'on a en plaine de Caen, par exemple. Et puis, une fois que ces carrières ont été occupées, elles sont toutes occupées par le pèlerin, il est en train de chercher un autre habitat qui lui ressemble, à savoir un milieu rupestre, donc un milieu de falaise. Et ce qui ressemble plus à un milieu de falaise, c'est une église. La ville aux 100 clochers que représente Caen, il y a de quoi faire. Il va trouver 2-3 églises qui lui seront favorables, certainement.
Alors, parfois, il faut redoubler d'attention pour pouvoir observer certains oiseaux. Pour finir, personnellement, vous êtes... jusqu'où vous êtes allé pour observer l'espèce que vous cherchiez? Est-ce qu'il vous est arrivé un peu de vous aventurer pour découvrir des choses qui n'étaient pas forcément visibles au premier abord?
Alors oui, quand on est ornithologue, on va chercher des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ce qu'on appelle chercher l'oiseau rare. Donc on va se déplacer pour essayer d'observer un oiseau qui n'a jamais été vu en Normandie. Et donc on a entendu dire que l'espèce avait été vue par quelqu'un. Et donc on va essayer de la retrouver. Et donc on peut faire quelques kilomètres pour l'observer, ou on peut multiplier les chances en allant de plus en plus souvent sur le terrain à des horaires bien précis pour essayer de capter cet oiseau-là.
Est-ce que vous aviez, par exemple, un souvenir en particulier d'un oiseau que vous êtes allé chercher et qui vous a marqué en particulier?
Alors, pour rester sur Caen, on a eu 3 espèces qui étaient très rares, qui ont été observées sur la ville de Caen. On a eu le blond géosnin, qui est un tout petit héron. Et donc, cette journée-là a été assez fabuleuse, puisqu'un copain observe une marouette sur la mare de la prairie. Donc, il nous appelle, on reste patient, on la voit sortir du terrain. Donc, on est tous contents, parce que c'était pour moi la première fois que je voyais cette espèce, qui était la marouette de Bayon. Et tout le monde repart. Et puis, un quart d'heure après, un autre copain nous rappelle en disant « j'ai trouvé au centre de la prairie le blond géosnin, qui est une espèce qui n'avait jamais été vue dans le Calvados de mémoire. Et donc, pour la première fois sur la ville de Caen. Et hop, on est revenu juste après, au même endroit, pour voir cet oiseau qui était tout tranquille, posé dans la roselière. Donc, il y a des concours de circonstances. Cette journée-là, j'ai vu 2 espèces très rares en Normandie que j'avais jamais vues en Normandie.
Merci beaucoup à vous, James, Jean-Baptiste, d'avoir été à notre micro et de nous avoir accordé ce moment chez vous, dans votre deuxième maison, dans les locaux du groupe ornithologique normand. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Encore merci à l'ornithologue James Jean-Baptiste pour cet entretien. C'est pas faux, c'est bientôt terminé. Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Le Dôme propose ce vendredi une initiation à Inkspace. C'est un logiciel de dessin qui permet de créer une image ou un plan qui seront ensuite créés à l'aide de différentes machines de l'atelier. Vous pourrez ainsi apprendre à concevoir un dessin vectoriel ou encore à préparer des découpes laser et vinyle. Ça va se passer vendredi prochain entre 18 et 20h. Pour vous inscrire, rendez-vous sur leur site ledôme.info. Le Dôme qui ouvre également ses portes aux collégiens et lycéens, dans le cadre du programme Atelier chercheurs-chercheuse du 5 au 14 février. Ils seront plus de 1800 à participer. L'idée est de créer un véritable dialogue entre élèves et doctorants. C'est un événement qui se déroule dans toute la Normandie, mais qui passe bien sûr par le Dôme ce vendredi 9 février. Et on termine avec notre agenda, comme d'habitude, notre recommandation documentaire cap cette semaine sur le soleil, avec un programme que diffuse Arte, qui l'aborde sous l'angle des aurores boréales, mais aussi de la photographie, avec les productions de l'artiste Andy Keane. Vous entendrez aussi les paroles de chercheurs et de spécialistes. Le soleil, l'astre des astres, c'est ce samedi à 20h50 sur Arte. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Emmanuel et Annaëlle à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Johan pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.